Alexis Broca du nouveau magazine littéraire. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu, bonjour Jean-Paul.
Je parie que Robinson a bercé votre enfance, comme la nôtre d'ailleurs.
Ah oui, Robinson a bercé mon enfance. Il berce encore mon quotidien puisqu'il m'arrive d'y revenir. Nous préparons en fait quelque chose qui abordera le sujet bientôt. En effet, voilà, la figure de Robinson, l'œuvre, le livre Robinson Crusoe me fascine par sa capacité à la fois à concentrer des problématiques qui sont des problématiques éternelles de l'homme et des problématiques effectivement de son époque. Et puis j'ai été très frappé aussi par les réécritures de Robinson, en particulier celle de Tournier, et en particulier ce renversement.
Que vous avez pu rencontrer d'ailleurs dans votre jeune vie de journaliste débutant au nouveau magazine littéraire.
C'était une rencontre très émouvante. J'étais allé voir Tournier pour l'interroger sur Vendredi où est l'âme du Pacifique. La version enfantine du livre m'avait beaucoup marqué, Vendredi où la vie sauvage. Et d'ailleurs, Tournier préférait cette version. Il expliquait que débarrasser des explications philosophiques, débarrasser du jeu de symboles que lui-même trouve un peu lourd, le mythe apparaissait beaucoup plus nu et beaucoup plus vrai. Mmh. Et puis moi, je suis fasciné aussi de voir... si vous voulez, on trouve des Robinson dans les nouvelles de Melville, on trouve des Robinson dans les contes de Jack London sur les mers du Sud. Je suis fasciné de voir à quel point ce personnage s'est épandu à travers toute la littérature, sans doute en partie parce qu'il est une petite métaphore de notre condition. Nous sommes après tout des Robinson sur notre petite terre, perdus dans l'océan stellaire. Voilà.
Vous nous en direz plus, je pense, la prochaine fois, quand paraîtra, mais c'est un secret, le dossier du nouveau magazine littéraire. Alors, ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que dans le magazine de ce mois-ci, il est question de Franz Kafka.
Voilà, on consacre un dossier à Franz Kafka. C'est toujours intéressant de regarder Kafka, parce que c'est un auteur que nous croyons tous connaître, dès lors que nous sommes face à des complications administratives un petit peu tortueuses, eh bien nous employons l'adjectif kafkaïen. Le mot métamorphose nous renvoie tout de suite aux mésaventures de Grégoire Samsa, qui se retrouve transformé en cloporte ou en cafard, selon son traducteur. Et c'est curieux parce que nous croyons connaître Kafka et en même temps ces textes n'arrêtent pas de nous parler d'un inconnaissable. Les textes de Kafka ont ceci de particulier que ce sont des paraboles qui ne se referment jamais sur une ou plusieurs interprétations. Ces paraboles ouvrent sur l'abîme de toutes les choses qui nous échappent. Voilà, alors ce dossier, il a été coordonné par Fabrice Collin, qui est écrivain et qui est un collaborateur régulier du nouveau magazine littéraire, et aussi par Alain Dreyfus, qui est critique et lui aussi un de nos anciens collaborateurs. Et il commence à s'intéresser à un paradoxe au cœur même de l'œuvre de Kafka. Kafka est un auteur extrêmement lisible. C'est un auteur qui refuse toutes les afféteries de style. C'est avec cette langue extrêmement lisible qu'il nous pose des questions insolubles. Ça débouche sur quelque chose d'intéressant parce que, si vous voulez, nous parlons régulièrement des auteurs d'autrefois en soulignant parfois de manière un peu capillotractée leur modernité. Kafka, lui, on n'a pas besoin de le faire puisque il semble nous parler depuis un présent éternel. Sa singularité est telle que sa parole n'a pas besoin d'être habillée de commentaires pour paraître contemporaine. Et elle n'a pas besoin non plus d'être habillée de biographie. Du coup, on a tendance à le voir comme une comète, comme quelqu'un qui aurait pu débarquer en toute époque. Et pourtant, lorsque les spécialistes s'y intéressent, ils montrent bien que l'œuvre de Kafka est en grande partie liée à son époque. Son obsession pour l'idée de surveillance, de coercition, annonce bien le 20e siècle qu'il inaugure. Et en même temps, il y a d'autres thèmes chez Kafka qui relèvent de l'éternel. Je pense à l'arpenteur du château qui menace une petite communauté, qui est vu comme l'étranger qui menace une communauté. Et là, on n'est plus du tout dans quelque chose de circonstanciel.
Alors parmi les questions que vous abordez et qu'aborde en particulier son biographe allemand, Rainer Starr, il y a des malentendus sur la figure de Kafka.
Oui, et Kafka, on a tendance, c'est un réflexe de l'esprit humain, nous avons tendance à imaginer l'auteur à la semblance de son œuvre. Alors quand on imagine Kafka, cela donne un petit fonctionnaire, un petit homme gris, étriqué. Pierre Desproges avait un commentaire assez joli dans ce sens-là. Pierre Desproges disait que Kafka était un homme à qui souvent venait l'envie de dire « Bonjour, homme, mon frère, mon semblable, mets ta main sur mon épaule, porte un peu de mon chagrin, viens chanter dans ma vie. » Mais quelque chose l'en empêchait, il disait « Bonjour, monsieur Odradek, espérons qu'il ne va pas pleuvoir. » Voilà, c'est comme ça que le voyait perdre des proches, et c'est comme ça aussi qu'on a tendance à le voir lorsqu'on ne se fie uniquement qu'à ses lectures. Et en fait, Kafka était tout sauf un petit homme grisâtre. Kafka était un homme qui avait des amis, qui portait des vêtements clairs, qui avait des distractions, qui ne dénaignait pas de temps en temps d'aller visiter les maisons closes. C'était par ailleurs un juriste compétent, un fonctionnaire zélé. Tous ces détails biographiques qui en font un être semblable. Voilà. Oui. Pas d'une originalité folle, ça l'a pas empêché de poser au monde et aux lecteurs des énigmes qui font vaciller littéralement l'univers autour de nous.
Eh ben merci beaucoup.
Voilà.
Vous nous renvoyez donc au nouveau du nouveau au magazine
littéraire.
Nouveau magazine littéraire
qui sort demain.
Allez, à demain.